Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto, spécial revue d'année.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 25 décembre.
Bonjour Antoine.
Hein?
C'est le 25 décembre.
Édition du 25 décembre. Pas besoin de vous dire qu'on n'enregistre pas le 25 décembre.
Non, effectivement, je me suis déguisé en Père Noël pour absolument rien parce que on est à la radio.
Oui, tout à fait. Mais tu l'as fait pour moi.
Juste pour toi.
Hein? C'est quand même un geste que j'apprécie.
Ça me fait plaisir.
Je voulais juste te le dire.
Oui.
Maintenant, on va se faire une petite émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque on est à l'heure des bilans. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé de 2021, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on attend, comment on a vu l'industrie. Alors, on va faire 4 blocs spécifiques, en commençant par les belles surprises de 2021.
Soyons positifs, hein?
Oui, il y aura du négatif aussi, faites-vous-en pas. C'est parce que c'est plus vendeur du négatif aussi.
Oui, effectivement, effectivement.
Puis, contrairement à certains de nos collègues qui sont toujours dans le positivisme, il faut quand même... taper sur le clou un peu.
Un petit couteau qui va le bas entre une bouchée d'atoka et de dinde.
On nomme pas personne.
Ben non.
On nomme pas personne. Alors, écoute, moi, je commence avec un premier coup de cœur de l'année 2021. Et c'est... Genesis pour l'ensemble de l'œuvre. Genesis parce que je suis le premier à être surpris du succès de cette marque-là. Moi, quand on est arrivé avec la marque Genesis, avec le nom d'une ancienne auto qui s'était pas tant vendue.
Le nom de deux anciennes autos, parce que c'était la berline, c'était le coupé, c'était pas clair.
Et
le modèle d'affaires initial était pas clair non plus avec des ventes à domicile. Est-ce que on allait être associé au concessionnaire Nissan?
Oui, puis attends, puis on arrivait avec une première voiture brandée Genesis qui était une grosse berline intermédiaire alors que tout le monde quittait le marché.
Effectivement.
C'est quoi cette idée-là?
Et comment essayer de vendre une berline de grand luxe comme ça avec un écusson inconnu de tous? Donc, c'était audacieux.
Oui, et un écusson au design un peu kitsch, permets-moi de te le dire.
On dirait un mauvais écusson de Bentley, oui.
C'est bon. Fait que moi, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais... Évidemment, c'est la G70 qui a parti le bal, qui est une voiture assez convaincante, mais cette année, on a essayé la berline G80, le VUS GV80, puis le GV70. Et à ma grande surprise, on voit des G80 sur la route. Il y a des gens qui vont voir cette voiture-là, qui sont impressionnés avec raison et qui l'achètent.
Et alors en même temps, l'offre, il n'y en a plus d'offres. Donc, si on veut autre chose qu'une berline sportive et qu'on veut du luxe et du confort, mais la G80, c'est une très belle offre.
Il y a peut-être la Cadillac CT5 aussi qui est intéressante. T'as quelques joueurs qui sont... juste un peu plus traditionnel que les Allemands là-dedans, mais Genesis, je veux dire, c'est un constat d'échec pour les constructeurs japonais. Là. Oui. Acura, Infiniti, Lexus sont partis de ce marché-là.
Chez Lincoln, la même chose. On était le maître de la berline de luxe et puis finalement,
terminé.
On n'en a même plus de berline.
C'est vraiment fascinant. Puis là, évidemment, le GV70 est un produit qui nous a impressionnés au point qu'on l'a nommé VUS de l'année au guide de l'auto.
Oui, tout le monde n'était pas forcément d'accord parce que c'était un choix assez audacieux, disons-le, là, de le placer devant des véhicules très convaincants comme le Audi Q5, le Acura RDX, mais...
Mais ça, c'est dans son segment.
Oui.
Mais on l'a nommé...
En plus.
Et tu sais, au jury du véhicule nord-américain de l'année, c'est un véhicule qui fait compétition à des modèles comme le Bronco.
Oui, oui. Qui ont une aura un peu plus grande.
Ça n'a rien à voir comme type de véhicule, mais en même temps, ce sont deux, entre guillemets, VUS. Alors, tu sais, c'est bien drôle de voir l'arrivée de Genesis avec un produit qui fait tout très bien. Et en plus, on a l'audace d'annoncer une version électrique qui va arriver d'ici même pas un an. Alors, pour moi, c'est vraiment une marque qui a le vent dans les voiles, qui va probablement en faire mourir d'autres. Là, je pense à Infinity, je pense à Jaguar qui
on en parlera un peu plus tard.
Qui ont de la misère à se tortir la tête hors de l'eau. Oui. Mais l'ensemble de l'œuvre chez Genesis m'a vraiment impressionné.
Et on a une grande machine coréenne derrière qui a vraiment une très grande volonté de réussir parce qu'on sait...
Parce qu'on pourrait aussi donner un pouce en l'air à Hyundai qui fait un très, très bon boulot en ce moment. Là.
Mais avec Hyundai, on avait une certaine base. Là, avec Genesis, on est parti de rien initialement. Ouais.
Bon, puis c'est surtout qu'on est mal parti.
Ouais.
On est parti avec un nom qui est devenu une marque, avec des produits qui étaient initialement pas ceux qu'on pensait qu'ils allaient se vendre. Bon, bref. Fait que c'est parti.
Mais là, on a l'air bien lancé.
Oui, exactement.
Tu as effleuré le sujet de la CT5 lorsqu'on parlait des berlines.
Ouais.
De mon côté, dans les belles surprises de l'année, c'est le duo Cadillac CT4V Blackwing et CT5V Blackwing que j'ai pu conduire sur la piste le Canadian Tire Motorsport Park en Ontario. Et franchement, oui, j'avais des attentes très élevées par rapport à ces voitures-là. GM nous avait fait languir longtemps.
Ouais.
Et quand on avait su qu'on allait avoir la manuelle, franchement, c'était... Il y avait de quoi plaire aux amateurs, aux puristes. Et j'ai pas été déçu un seul instant. Oui, la CT4V Blackwing, c'est intéressant, mais pour moi, le véhicule ultime, ça demeure la CT5. Donc, on a le V8 suralimenté.
Propulsé.
De 6,2 litres, suralimenté, propulsé, avec une boîte manuelle dans une berline à 4 portes. Pour moi, c'est impressionnant que cette voiture-là puisse même exister en 2021-2022. L'industrie est rendue ailleurs, mais avec sa gamme qui est très élargie.
C'est la dernière.
C'est la dernière. Il n'y en aura pas d'autres. Déjà avec la CTS-V par le passé, on avait fait des choses assez exceptionnelles. Là. Une CTS-V familiale à boîte manuelle. Là, ça aussi, on s'entend que c'était dans les dernières de son espèce.
Ouais.
Mais comme on a un catalogue très, très étendu chez GM, ben, on peut se permettre des
beaucoup
folies,
moins qu'à une certaine époque. Là.
Oui, bien entendu, mais tu sais, on va d'une Chevrolet Spark à 11 000 $ jusqu'à un Cadillac Escalade diesel à 125 000 $. Tu sais, on a un catalogue très étendu. Alors, on peut se permettre ces folies-là. Moi, j'ai été absolument charmé par la CT5 V Blackwing. Bon, oui, c'est une voiture qui est dispendieuse, mais bon, on en avait parlé aussi. C'est le même prix qu'une Challenger, qu'une Charger Hellcat, par exemple. Mais tu sais, on a une voiture tellement plus complète, avec une puissance, tu sais, que tu peux même pas totalement exploiter non plus. Mais c'est... En étirant, je pouvais même la comparer à la Corvette parce que ça reste une mécanique qui est plus puissante que la Corvette Stingray, mais dans un format beaucoup plus pratique. Et à choisir entre les deux pour un usage, disons, plutôt régulier, j'aurais pas le choix de te dire que la Cadillac l'emporte dans ma tête et dans mon cœur. Alors, vraiment, chapeau à GM de ce côté-là.
Un autre coup de cœur que j'ai eu cette année, c'est le duo GTI Golf R 2022. Encore une fois, voiture de l'année au guide de l'auto. Je pense qu'elle est en très, très bonne position, cette voiture-là aussi, pour remporter voiture de l'année par le jury nord-américain. Alors,
même si c'est une petite voiture allemande, ça risque de plaire à tes collègues américains?
Ben, en fait, les trois finalistes sont la Civic, la Golf GTI et la Lucid Air qui est...
Et j'imagine relativement mal la Lucid Air devenir la voiture de l'année, là.
Ben, ça, c'est pas impossible.
Ce serait un peu hâtif comme nomination, là.
C'est ça. Ce
serait un peu hâtif.
Je serais pas nécessairement d'accord avec ça parce que c'est une voiture hors de prix pour 99% des gens, tu sais. Fait que c'est
mais,
bon.
Mais 1% des Américains, ça reste beaucoup de monde, alors.
Oui, oui. Mais la GTI, la Golf R, c'est une voiture aboutie, c'est une voiture qui est fidèle à la tradition du pur plaisir de conduire, qui est capable d'offrir une Volkswagen, pas nos Volkswagen américains, mais les vrais Volks. Puis je me suis amusé d'ailleurs cette semaine à aller regarder la disponibilité des modèles Volkswagen du côté de l'Europe. Écoute, ils ont un catalogue
Ah, c'est exceptionnel. C'est incroyable, là, des mécaniques hybrides en plus qui se mêlent autour.
Je te parle même pas des mécaniques. Ils ont au moins 25 modèles de disponibles. Mm-hmm. La Golf, s'importe, la familiale, la nouvelle Polo, les Volkswagen Up. Après ça, ben, les Passat berline familiale.
Et même avec les VUS, là, le petit T-Roc qui est plutôt cute, je trouve. Oh, ouais, malheureusement, nous, on a autre chose, là, mais on a un catalogue peut-être un peu plus diversifié. Oui.
Ah, c'est exceptionnel ce qu'ils ont là-bas, mais la Golf GTI et la R qui sont vendues, je ne veux pas dire à prix raisonnable, mais à prix très réaliste pour ce qu'elles proposent, parce qu'une GTI, ça part à 32 000 $.
Ouais.
Moi, je trouve ça super intéressant comme bagnole, franchement, chapeau. Puis un pouce en l'air aussi pour le Ford Maverick, mais pour la version hybride, parce que...
Mais pour l'audace, premièrement, je trouve. Là.
Juste parce que c'est une bonne idée.
Oui.
Juste parce que c'est une excellente idée. Je suis persuadé que ça va connaître.
C'est une bien meilleure idée que l'EcoSport, parce que... non, mais on voulait un produit d'entrée de gamme. On voulait quelque chose d'attrayant, de cool, de jeune, de frais. Puis là, on avait l'EcoSport, puis c'était tout sauf ça. Et là, on arrive... Tiens, on a toujours été... le roi de la camionnette avec le F-150. On a connu du succès par le passé avec le Ranger. C'est pas génial en ce moment. Et là, on arrive avec une camionnette que personne d'autre a.
Et qui est accessible.
Oui.
Bon.
Oui.
Moi, j'aime surtout la version hybride parce que tu roules à 6 litres et demi au 100 avec une camionnette qui a 2000 livres de capacité de remorquage, qui est polyvalente, qui est pratique. Dommage qu'on n'ait pas de rouage intégral. Tu peux l'avoir avec le moteur 2 litres si tu veux, mais là, après ça, ta consommation est plus autour de 10 litres.
Le prix à l'achat aussi est un peu plus élevé.
2500 $ de plus que l'hybride. Alors, tu sais, si tu peux rester... Puis tu peux avoir une version hybride avec un équipement minimal, très honnête. Puis, tu sais, tu peux rester en bas des 30 000 $
Oui.
Alors, c'est...
Et il n'y a pas beaucoup de véhicules tout court à moins de 30 000 $ là, en 2021.
Ben, une Civic de deuxième de la gamme, c'est plus de 30 000.
Voilà.
Alors, tu sais, avec le transport préparation, alors ça te donne une idée. Donc, on a vraiment quelque chose entre les mains qui est très intéressant, selon moi.
Un deuxième véhicule GM parmi mes coups de cœur de l'année, et ce sont les VUS pleine grandeur avec les mécaniques Duramax. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pu conduire le Suburban avec le 3 litres, le 6 cylindres 3 litres en ligne turbo diesel, puis j'ai pu le remettre à l'essai avec le Cadillac Escalade. Et je sais que c'est toujours un peu délicat de parler de coups de cœur comme ça quand c'est des véhicules aussi dispendieux, évidemment, mais surtout quand c'est des véhicules qu'on ne peut tout simplement pas s'acheter parce qu'ils ne sont pas disponibles. C'était un enjeu pour bien des véhicules cette année et les gros véhicules GM, j'inclus les VUS pleine grandeur, Suburban, Tahoe, Escalade et compagnie, mais les camionnettes aussi. Alors, c'était un enjeu pour 2021. À mon avis, ça le demeurera pour 2022. Et c'est mon seul bémol avec ce véhicule-là, parce que autant en théorie qu'en pratique, ça reste génial. Là. Le rendement de cette mécanique-là dans des véhicules aussi gros, franchement, j'apprécie énormément.
Puis malheureusement, moi, j'ai bien l'impression qu'on va les voir disparaître assez rapidement. Ford a abandonné son diesel. J'ai le feeling que du côté de chez Jeep, on ne sera pas capable de conserver l'éco-diesel très longtemps. On est rendu à la limite de ce qu'un moteur diesel peut offrir pour passer les normes d'antipollution. C'est vrai.
Parce qu'on est à quoi? 10 litres au 100 là, avec un Suburban diesel? Là,
ah, mais c'est pas tant la consommation émissions polluantes.
Mais tu sais, ça frappe l'imaginaire qu'un si gros véhicule consomme aussi peu, là. Mais oui, effectivement, pour respecter les normes, il y a des limites à ce que les ingénieurs peuvent arriver à faire.
Ouais, voilà.